Bonsoir, je suis avec Lewis Trondheim, qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir. Lewis,
bonsoir Gilles.
Qu'est-ce que tu penses de la science-fiction ?
C'est toute une histoire et je dois avouer qu'effectivement, c'est pas tout à fait mon truc. Parce que ça, tu me l'as dit tout à l'heure quand même. Alors, bienvenue pour cette dernière rencontre avant la soirée de remise de prix de ce énième festival des Utopiales. Donc, il y a des noms qui résonnent. Il y a Shampoing, il y a Mildiou, il y a Lapineau, il y a Donjon, il y a Ralph Azam, les cosmonautes du futur, un petit peu quand même de science-fiction, Infinity 8, Density, l'association. C'est-à-dire qu'après Bilal, après Druyer, après Jim Burns, après Léo, après François Bourgeon, après Jodorowsky, après Manchu, après Mézières, après Denis Bajram et tant d'autres, nous avons l'immense plaisir donc d'accueillir Lewis Trondheim. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Donc Lewis, merci de passer cette petite heure d'apéritif avec nous pour parler un petit peu d'une manière conviviale et sympathique de ton immense carrière, de tes milliers d'heures passées courbé sur une planche à dessin, sur une feuille blanche avec un crayon.
Non, pas des milliers d'heures, je dessine très vite. J'ai tout fait à peu près en 3 jours.
Tu es trop modeste. Alors quand on parle de Lewis Trondheim et des Utopiales, en fait, il y a une question moi qui m'est apparue, c'était mais pourquoi finalement ? Pourquoi ? Parce que Lewis, c'est vrai que je me souviens pas effectivement que ce soit la personne que l'on associait tout de suite à des vaisseaux spatiaux immenses, à des guerres intergalactiques, à des lasers ou autres. Alors du coup, j'ai quand même voulu poser cette question en premier à un lecteur. Alors il m'a fait une réponse assez dithyrambique que je vais vous livrer ici, et puis on verra si Lewis a envie d'y répondre ou non. Et puis s'il n'a pas envie d'y répondre, on passera peut-être, parce qu'il nous a fait aussi le plaisir de nous amener un petit catalogue d'images qui va le forcer à repartir un petit peu dans son passé. Alors on verra si son passé est truffé d'anecdotes et de petits commentaires sur les images qui vont défiler pendant la soirée. Donc je vous livre la question. Donc cher Lewis, toi qui depuis presque 30 ans maintenant, quand même, hein, travaille à explorer donc les travers de l'humanité à l'aide de tes personnages et de drôles d'idées, avez-vous pu faire le tour de ce qui se passe entre les cases en fait ? Comme le cerveau invente rapidement un scénario lorsque vous tombez du lit pour vous faire croire que vous tombez en rêve et ainsi vous prévenir de la chute en espérant vous réveiller, est-ce que cette fameuse gouttière, ce vide entre les cases, est-ce que le cerveau humain agit de la même manière en remplissant les vides et que, de la même manière, en ayant une peur bleue du vide, le cerveau humain a-t-il, à cause de cela, inventé Dieu ?
D'accord, alors deuxième question.
Alors.
Non, mais bon. Non, merci, ça va, c'est bon.
Alors, je sais que tu te réveilles le matin en te disant qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui, ou peut-être non. Même sans te poser finalement la question.
Non, je me pose pas la question. Moi, je suis une espèce de dessinateur naturel. Pour moi, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit simple. J'ai commencé à faire de la BD parce que je m'ennuyais. Quand j'étais gamin, je dessinais, mais je n'arrivais pas à bien dessiner, donc j'essayais de faire comme je pouvais. Et puis j'ai laissé tomber parce que je me disais, je n'arriverai jamais à faire de la BD, c'est impossible, c'est trop dur. Mais j'avais envie de raconter des histoires, par contre, ça c'était sûr, mais je ne savais pas si ça allait être dans le domaine du roman, du scénario pour de la télé ou le cinéma. Et un jour, j'ai vu un fanzine qui s'appelait Le Lynx, qui était fondé par Jean-Christophe Menu, il y avait Stanislas dedans. Et j'ai vu une planche de bande dessinée de Matt Conture qui était très très mal dessinée, mais c'était bien raconté et c'était très intéressant. Et je me suis dit, mince, on peut faire de la bande dessinée sans savoir bien dessiner, donc c'est peut-être un truc pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de la bande dessinée en me disant, voilà, il faut que je chope le lecteur à la première case, à la première bulle, que l'interaction entre les personnages soit intéressante, que la situation soit intéressante. Que le lettrage soit bien fait, parce que ça, c'est vachement important. Souvent, il y a des jeunes auteurs qui me demandent comment faire. Je dis surtout, écrivez proprement. Ça a l'air tout bête, mais si vous écrivez proprement et que le dessin est pourri, mais l'histoire bonne, eh ben, ça fait déjà tout. Et voilà, et depuis, ça fait à peu près 30 ans, effectivement, que j'essaye de m'améliorer petit à petit. Donc là, j'ai fait des petits, un petit PowerPoint, ça marche ou pas ?
Normalement, ça devrait marcher.
Voilà, donc là, on peut voir au début, mon style de dessin, c'était le top du top que je pouvais faire. Hein. Et donc, je faisais un personnage la bouche fermée et le même la bouche ouverte, avec un personnage qui était off. Et tout était fait sur effectivement la rythmique de dialogue. Et à l'époque, c'était sorti en 90 en album. Et Jean-Pierre Dionnet m'avait vu à Angoulême. Il m'a dit « Ah, c'est toi, Lewis, c'est toi qui fais ça, c'est super bien. Il faut que tu continues, j'adore. » Et je me suis dit « Bah, je vais arrêter. » Parce que j'aime beaucoup Jean-Pierre Dionnet.
Parce que Jean-Pierre.
Mais il suffit qu'on me dise que c'est bien pour que je fasse autre chose. Mais pour faire autre chose, il fallait que j'apprenne à dessiner. Donc là, les personnages comme ça, en fait, ça, j'ai gagné ma vie comme ça au début grâce au magazine Le Psychopathe. Carali m'a fait vivre, moi, menu, kilo fer, mat conture, comme ça, pendant presque 4 ans. On était payé 100 francs la page, ou 200 francs. C'était pas beaucoup, mais j'avais pas d'enfant, donc j'avais pas beaucoup de dépenses.
Et elles étaient faites en une heure, c'est ça ?
Les pages étaient faites assez rapidement. Je savais que ma force, c'était pas le dessin, mais ça allait être les structures, les dialogues, les situations. Donc, effectivement. Mais maintenant, je fais une page en 3 heures environ.
En traditionnel, on est bien d'accord ?
En traditionnel, oui.
Enfin, ce qu'on appelle traditionnel. Mais alors, juste une petite question, du coup, parce que ça fait quand même plusieurs fois que tu parles effectivement du texte et de la structure. Et est-ce que tu t'es essayé à l'histoire écrite, au roman ? Et est-ce que peut-être un jour, quand on aura marre de dessiner ou quand tes mains trembleront trop pour dessiner, est-ce que du coup tu t'attaquerais au roman ?
Non, je crois que c'est trop difficile, c'est pas mon langage. J'ai essayé quand j'avais 14-15 ans, je lisais pas mal de romans d'aventure, de la science-fiction, du fantastique. Jusqu'à 20 ans, j'en ai lu vraiment, vraiment beaucoup. J'essayais d'écrire des nouvelles à cette époque-là. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les claviers. Donc, mon père était libraire. On avait une secrétaire qui avait une machine à écrire. Et donc, sur la machine à écrire, j'essayais de taper des nouvelles. C'était sans doute très, très mauvais. Et j'ai pas gardé. Et voilà. Donc, après, j'ai fait cet album-là pour apprendre à dessiner. C'est un album que je me suis dit j'allais faire 500 pages avec un format de gaufrier. Donc, gaufrier, ça veut dire que c'est des cases. Il y avait 3 cases sur 4. Comme ça m'évitait de trop réfléchir à comment mettre en scène. J'avais une case carrée, c'était tout. Donc ça, c'est la première page. Donc c'est très moche, mais c'est pas grave parce que je pouvais pas faire mieux de toute façon. On voit à case 7 le personnage de Lapino qui apparaît. Donc c'est un personnage que j'ai fait après beaucoup dans des aventures d'albums cartonnés classiques. Mais ça devait pas être forcément être le personnage principal de l'album. Comme j'improvisais, j'ai vraiment tout improvisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crayonné, et c'était de page en page, je ne savais pas ce qui allait arriver, mais ce n'était pas fait pour être publié à la base, c'était juste pour moi apprendre à dessiner. Donc 500 pages, comme ça, j'ai mis à peu près 9 mois à faire 423 pages, et je me suis dit c'est bon, ça, j'arrive mieux, j'ai essayé de faire autre chose, et après c'est les copains qui ont vu les pages, et ils m'ont dit maintenant finis tout et on va le publier à l'association, parce qu'entre temps on a monté une structure qui s'appelle l'association, avec Jean-Christophe Menu, Kilo Fer, David B, Matt Conture, Stanislas, etc. Bon, et ils m'ont dit on peut le faire, et moi à l'époque des albums de 500 pages ça n'existait pas vraiment en fait, c'était en 90, et on a quand même réussi à le faire, et j'ai fini les pages. Donc là, on voit le style de dessin. Au niveau des décors, c'était pas top top. Donc j'ai toujours tendance à dire, essayez d'apprendre à faire des décors quand vous êtes jeune auteur. Dessinez beaucoup d'après nature. C'est ce que j'ai fini par faire, en fait, dans les années 2000. Comme je voyais mon dessin qui stagnait un petit peu, je me suis dit, pour apprendre un peu mieux, il faut que je dessine d'après nature. C'est difficile au début. C'est vraiment très, très honteux, mais ça m'a fait progresser.
Et comment, à cette époque-là, tu pars sur un album de 500 pages, donc en parallèle de ton activité, entre guillemets, rémunératrice ?
En parallèle, moi, je n'ai jamais fait d'autre métier qu'auteur de bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai fait l'armée, déjà. J'étais obligé.
Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est l'armée ?
Alors, l'armée, c'est des gens qui sont avec des habits habillés pareils un peu tous. Il y a un chef qui a des trucs jaunes alignés comme ça, que c'est plus le chef que les autres. Et il faut lui obéir.
Et t'as dessiné pendant ton armée ou les chefs ils t'embêtaient trop là ?
J'ai dessiné un petit peu, mais assez peu. Mais en fait, j'ai découvert que je pouvais faire de la bande dessinée aussi grâce à l'armée, parce que à côté de moi, il y avait le studio de photographie. Et il y avait un appelé qui travaillait au cahier de la bande dessinée, qui s'appelle Harry Morgan. Et il faisait aussi un fanzine. Donc j'ai découvert ce que c'était que le fanzina. Donc le fanzina, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire des, avec des photocopies, un petit magazine comme on peut. Et de là, j'ai découvert les cahiers de la bande dessinée. Et en 87, j'ai vu qu'il y avait un colloque qui allait se tenir à Cerisy-la-Salle en Normandie. Et c'était organisé par Thierry Grandstein, il y avait Benoît Peters et d'autres collaborateurs des cahiers de la BD qui étaient là-bas. Donc j'ai demandé à mes parents de me payer le voyage et le séjour pour voir si c'était intéressant de faire ce genre de choses. Et c'est là que j'ai découvert le fanzine de menu et le fait qu'on pouvait faire de la bande dessinée moche, mais intéressante.
Et donc, tu as continué la bande dessinée moche, c'est ça que tu es en train de nous dire?
À l'époque, oui, mais grâce à l'armée, en fait. Mais
grâce à l'armée.
Je ne conseille pas forcément aux gens d'aller à l'armée pour faire de la BD après.
Est-ce que dans cette période-là, entre guillemets, de démarrage de ta carrière et puis de toute façon de ta entre guillemets d'une vie d'adulte, est-ce que le dessin justement t'a sorti de certaines situations soit embarrassantes ou t'a amené à part une vie de fortune
situation embarrassante pas vraiment. Quand je dessinais un petit peu dans des pays étrangers, j'aime bien quand je suis invité à gauche à droite prendre une semaine ou deux semaines de plus, me promener en ville, dessiner. Donc de temps en temps, c'est trouvé que j'étais au Japon à dessiner des croquis. Et c'est les rares fois où des Japonais allaient vers moi parce qu'ils me voyaient dessiner et pas juste prendre des photos. Mais en même temps, ça m'a... J'ai une anecdote comme ça, c'était Baudouin qui était dans les années 90 à Beyrouth. Il était dans une zone où il ne fallait pas qu'il y soit. Il y a une milice qui s'est pointée vers lui pour le tuer. Et il a fait « Attendez, je vais vous dessiner, vous allez voir ». Et il a pris un carnet, il a dessiné le mec avec son fusil. Ça a fait marrer ses copains, donc il a dessiné tout le monde et il a sauvé sa vie. Donc faire de la bande dessinée, ça peut sauver la vie. Mais moi, ça ne m'a pas sauvé la vie spécifiquement. Ça m'a fait gagner ma vie.
Un petit peu quand même.
Et donc pour reprendre le cours de la chronologie, c'est après les cartes de Patagonie, donc l'album de 500 pages. Je me suis dit, j'arrive à m'en sortir toujours avec les dialogues, mais il faudrait que j'arrive à m'en sortir aussi avec le dessin. Donc j'ai fait un album qui s'appelle La Mouche. Où je faisais un système de gaufrier pareil et où je m'interdisais de faire des dialogues. Il fallait que je m'en sorte uniquement avec une bande dessinée muette. En fait, j'aime bien les contraintes. Je pense que c'est un truc un peu récurrent chez moi. J'aime bien les défis et les contraintes. J'aime bien être cadré comme ça.
Oui, le cadre te sert à en sortir, quoi. Enfin,
voilà.
Théoriquement, en tous les cas. Une belle mouche.
Pas une vraie mouche. Hein. Je ne sais pas bien dessiner les mouches.
Les mouches.
Voilà. Et après, on a fait un... Il y a eu des pages comme ça. Donc, la première page, c'était ça. C'était paru dans la revue Lapin. Et il y a un mec qui travaillait pour les Japonais, pour Kodansha, qui avait vu ça. Il me dit, tu peux pas faire la mouche pour les Japonais. On a un magazine qui s'appelle Afternoon. Il fait 1000 pages. Et tu pourrais faire des histoires de 8 pages dedans. Avec la mouche. Je dis, c'est sympa. Ça, c'était en 93, je crois. C'était payé correctement. Mais il m'a dit, par contre, la mouche noire avec les dents qui ressortent, qui louchent et qui a des chaussures, ça ne va pas aller. On peut garder les chaussures, mais il faudrait que tu fasses une mouche blanche et avec des petits yeux et sans dents. Donc en fait, j'ai dessiné une espèce de smiley, donc un rond avec les ailes au-dessus, deux points et un sourire. Et des chaussures. Il m'a dit oui, exactement ça, c'est bien. Il m'a dit, mais je dis, c'est pas très intéressant comme dessin. Il me dit, mais si, c'est bien, avec les Japonais, ne cherche pas à réfléchir, tu fais comme on te dit.
Est-ce qu'il y a des Japonais dans la salle?
Donc j'ai fait ça. Dans le magazine, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits questionnaires. Et on demande aux lecteurs l'histoire qui leur a le plus plu, le personnage qui leur a le plus plu, le dialogue le plus intéressant, la case la plus intéressante. Ils reçoivent des milliers et des milliers de réponses, voire des dizaines de milliers de réponses. Et après, ils en piochent, je ne sais pas quoi, 500 peut-être au hasard. Et à la sortie de l'histoire, La Mouche est arrivée genre en 7e position. Donc c'était un manga collectif qui faisait 1000 pages. Et ils se sont dit, voilà, c'est incroyable, il faut absolument prendre le truc en main. Ça a l'air de plaire au lecteur. Donc, ton histoire de mouche qui se balade et qui va sur la poubelle, maintenant tu arrêtes. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Donc, il faut qu'il rencontre une mouchette qui s'embrasse sur une case qui va faire une case plus grande. Et à la fin, ils s'embrassent. J'ai dit, la mouchette, je la dessine comment ? Ah ben, je sais pas. Alors, j'ai dit, ben, je fais la même mouche, mais avec des chaussures à talons. Oui, d'accord. Bon, donc j'ai fait ça.
Mais sans poils.
Sans poils, sans dents, sans rien. J'ai fait ça. Parce qu'à chaque fois, ils me disent, faut pas réfléchir avec les Japonais. Puis moi, j'avais toujours le dire avec les Japonais, si ça marche, après, il y a plein de merchandising, il y aura des séries télé, il y aura des trucs comme ça. Et j'ai fait le truc. Ils ont fait le même concours avec les questionnaires. Et la mouche est arrivée genre en 60e position. Et ils ont dit, oh bon, on arrête. Voilà, c'était un peu la fin de l'histoire. Donc j'ai repris les pages que j'avais faites, je les ai redessinées à ma façon. J'ai fait un album au seuil avec mon personnage noir. Ça a été adapté genre un an après à la télévision française, par France Télévisions, France 3. Il n'y a pas eu de merchandising, mais en fait, ça m'a vraiment motivé après pour me dire que en France, c'est bien, on est vraiment une patrie de la bande dessinée, on n'a pas besoin de chercher des choses ailleurs. À chaque fois qu'on me disait, ah, tu veux pas aller à San Diego faire des trucs, ou chez Disney, n'importe quoi, je disais, bah non, c'est bien la France, c'est suffisant. Voilà pour l'histoire de la mouche, qui était une très belle histoire. Et ça, c'est des histoires muettes aussi.
Toutes les pages de la mouche, là, sont aquarellées.
Aquarellées en direct, oui.
En valeur de gris, quoi, en fait.
Voilà, oui.
D'accord.
Mais je ne savais pas faire des couleurs à cette époque-là. J'ai appris à faire des couleurs plus tard en faisant les petits riens. C'est des histoires autobiographiques. En fait, je voulais apprendre l'aquarelle. Et plutôt que de faire ça juste sur des dessins, je me suis dit, je vais faire des petites histoires autobiographiques en une page. Et je vais les aquareller. Et là, ça fait 10 ans que je fais ça maintenant. J'ai dû faire 800 ou 900 pages d'histoire et j'ai toujours rien compris à la couleur. C'est trop difficile. En fait, les aquarelles, pour peu qu'on utilise le même papier, les mêmes aquarelles, si on met l'aquarelle genre 2 secondes avant, 2 secondes après avoir humidifié le papier, si c'est l'été, si c'est l'hiver, ça rend des résultats très très différents. Donc je pense que j'ai jusqu'à la fin de ma vie pour comprendre que ça ne marchera jamais, mais ce n'est pas grave.
Et tu fais des paysages, puisque tu parlais tout à l'heure de dessiner d'après nature, comment ça se passe? Tu te poses dans un champ et tu fais...
Non, pas dans un champ parce qu'il y a des mouches et tout ça, j'aime pas. Ça me chatouille le nez et ça vient sur moi. Donc les villes, c'est mieux pour ça.
Mais donc il y a des aquarelles quelque part dans tes cartons, de paysages uniquement. Quoi.
Mais de villes, des trottoirs, des lignes droites, c'est plus facile aussi.
D'accord, le cadre.
Mais j'aime bien aussi, en fait, comme plein de dessinateurs, je crois qu'on aime beaucoup dessiner les fils électriques, les poteaux électriques avec les turbines en haut. Au Japon, il y a des trucs, aux États-Unis aussi, c'est vraiment très chouette et très graphique. Mais bon, c'est pas très intéressant. On ne fait pas d'histoire avec. Là, j'ai fait. En fait, c'est un PowerPoint qui n'est pas spécialement pour vous. J'avais fait ça il y a 3 ans ou il y a 5 ans, je ne sais plus. Et il m'a demandé si j'avais pas quelque chose à montrer parce qu'il avait la flemme de
j'avais
le faire.
Pas pensé, donc.
Et je lui ai dit j'ai ça. Il me dit oh, très bien. Donc vous allez voir des images qui sont pas toujours dignes d'intérêt, mais ça permettra de discuter. D'ailleurs, si vous avez des questions en parallèle, n'hésitez pas à lever la main et on répond. On est là un petit peu à la bonne franquette. Hein. Alors ça, c'est long. Voilà, on s'en fiche aussi. Oh là là, il y a plein de pages.
Là, il y a du décor. Hein, ouais.
Bon, vous n'avez pas le temps de lire, c'est pas grave. Ça, c'est voilà de la science-fiction. Ah. J'ai fait de la science-fiction.
Eh oui.
C'est l'histoire du cosmonaute et à chaque fois, il fait des choses. Et c'est muet et voilà. Bon, pour ceux qui peuvent le lire.
Et t'es amateur de science-fiction.
Oui, en fait, moi, je voulais apprendre le scénario. Et à 18 ans, mes parents ils m'ont dit « Bon, voilà, tu as ton bac philo lettres, qu'est-ce que tu vas faire après ?» J'ai dit « Je dois bien apprendre le scénario, comment on peut faire ?» Et on s'est un peu renseigné. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et il y avait une école de cinéma privée à Paris. Moi, j'habitais Fontainebleau. Donc tous les jours, j'allais à Paris. Je faisais à peu près 1h, 3 quarts de bus, train, métro pour arriver là-bas. Et pendant le trajet, je lisais beaucoup de science-fiction, de romans, etc. Et la même chose au retour. Et là-bas, en fait, donc c'était en 2 ans. La première année, je savais que les cours de scénario étaient en 2e année. Donc la première année, j'ai fait plein de trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Je me suis bien ennuyé. Et en 2e année, ils se sont rendus compte à l'école que le scénario, c'était très important. Donc ils l'ont mis en 1re année. Et voilà.
Et tu as réussi à éviter le scénario.
Voilà, ils ont réussi à me faire éviter le scénario. Je fais dépenser beaucoup d'argent à mes parents pour rien. Mais j'ai compris beaucoup plus tard que j'ai tellement mangé de romans pendant les trajets que ça m'a vraiment nourri, ça m'a enrichi au niveau des structures, des typologies narratives. Et j'ai appris le scénario grâce à cette école, mais pas vraiment grâce à cette école, grâce au trajet vers cette école.
Donc le truc, c'est vivez en banlieue, vous apprendrez à dessiner, quoi.
Ça peut être ça, ouais. Mais c'est bien de lire. Hein. Pour ceux qui sont ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui lisent, mais on apprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on apprend. Maintenant, on est une génération, enfin, vous êtes les plus jeunes des générations, où on se mange tellement de séries télé, de films, de tout, qu'on a tout ça incorporé. C'est assez chouette. Mais en même temps, je pense que les générations qui ont 20 ans maintenant, ce sera beaucoup plus dur d'être auteur, d'être créateur, simplement parce que vous n'avez plus le temps de vous ennuyer. Moi, j'étais gamin, j'avais une chaîne de télé. À un moment, on avait 2 chaînes, voire 3, mais c'était maximum. J'ai découvert l'humour à la télévision à travers des choses qui n'étaient pas bien. Enfin, c'était Benny Hill, il nous voyait Benny Hill et c'était Colaro.
Ça, c'était déjà en couleur.
Ouais, c'était en couleur, mais c'était pas bien. Alors qu'en parallèle, depuis les années 70, il y avait les Monty Python et ils n'ont jamais passé à la télé. Et pourtant, ça, c'était génial. Et j'ai découvert ça, j'avais 20 ans, mais j'aurais vu ça avant. J'aurais vraiment
été pire,
adoré. Mais bon, il n'y avait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, les générations maintenant, bah, ils ont le choix tout le temps pour faire plein de choses. Ils ont Internet, ils ont les réseaux sociaux, ils ont 1000 séries télé super intéressantes. Donc ils n'ont plus le temps de s'ennuyer, ils n'ont plus le temps de savoir qui ils sont, d'être... Généralement, quand ils sont tout seuls, ils paniquent parce qu'ils ne savent pas. Donc il faut qu'ils soient avec le Wi-Fi. J'exagère un petit peu, mais je pense qu'en gros, on se nourrit et on comprend qui on est si on a le temps de le faire. Si on a peur de soi et qu'on a peur du vide... c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a une génération d'auteurs de bande dessinée entre 1995 et 2005 qui était incroyable, avec un panel de styles narratifs, de styles graphiques différents qui est fou. Il y avait vraiment un âge d'or de la BD à ce moment-là. Et je ne suis pas sûr que la génération d'après y ait autant de gens. J'espère, je le souhaite, j'adore la BD, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qui soient... capable de faire des trucs aussi intéressants et forts.
Parce que tu vois des choses beaucoup plus uniformes aujourd'hui ?
Plus uniformes, mais c'est surtout qu'effectivement, il n'y a pas des individus aussi complexes, riches et tarés que des copains que j'ai comme Christophe Blin, Sfar et Larsenet. Quoi.
Et tu fais des interventions en scolaire ?
Ça t'arrive ? Je fais une intervention depuis 5 ans à l'école Émile Cole en 4e année. Où je leur apprends à faire des bandes dessinées en quelques heures, sous contrainte. Généralement, ils n'aiment pas trop, mais ce n'est pas grave. Hein.
Et quand tu leur demandes qui a lu quel roman, il y en a quelques-uns qui lisent encore ?
Les romans, non, ils lisent assez peu. Mais même, je leur demande, est-ce que vous avez lu Scott McCloud ? Parce que c'est vachement important, si on veut faire de la BD, c'est quand même un petit peu un essentiel. Mais ils n'ont même pas lu ça, donc je les oblige. Et ils râlent, puis après ils me remercient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici après ? Oh, encore une histoire de cosmonaute. Vous arrivez à les lire, les histoires, ou c'est... Moi, je vous la laisse un petit peu. Donc là, il y a du dialogue, mais c'est du dialogue en on ne sait pas quoi.
Et à propos de cosmonautes, alors comment s'est fait la collaboration avec Larsenet sur les cosmonautes du futur, par exemple ?
Alors, les cosmonautes du futur, ça a été primé ici, aux Utopiales, il y a une 15aine d'années. Et ça part du principe qu'on a tous eu de parano, qui est « est-ce que mes parents sont mes parents ?» Est-ce que ce n'est pas plutôt des robots ? Est-ce que le monde n'est pas créé pour moi ? Ou est-ce que les gens, ce n'est pas que des extraterrestres qui ne sont pas des humains ? Et on part de là, et en fait, il y a deux gamins, et ils se rendent compte que il y en a un qui pense que tous les autres c'est des extraterrestres, et l'autre qui pense que tous les autres c'est des robots. Et en fait, ils ont tous les deux raison, parce que c'est que des, il y a que des extraterrestres qui ont créé des robots pour être autour d'eux.
Oui, ça dégénère pas mal.
Ça dégénère pas mal.
Et toi-même, tu as réussi à résoudre le mystère, du coup, sur tes propres.
De savoir si les gens sont des vrais gens, si toi tu es une vraie personne, je ne sais toujours pas. Je me méfie beaucoup, je suis vraiment très, très paranoïaque. Souvent, on me pose la question aussi, où est-ce que vous trouvez vos idées ? J'ai longtemps réfléchi et je pense que c'est la paranoïa qui crée les idées. Le fait d'avoir peur et d'imaginer le pire, ça me permet de faire la même chose pour les personnages et de faire en sorte qu'il arrive le pire pour les personnages.
Et en fait, ça me fait rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de se poser devant un paysage pour peindre d'après nature, parce que quand on regarde que des textes, admettons, c'est quand même des chroniques sociales juste et très précises. Enfin, on a l'impression que tu restes tapis dans l'ombre pour observer ton prochain, comme dirait l'autre. Et en fait, dans le dessin, c'est un peu la même démarche, en fait, se poser devant une feuille blanche pour retranscrire ce que tu vois autour. Et est-ce que toi, tu ferais un parallèle entre l'image et le texte en termes d'observation sociale, de retranscrire un petit peu ton environnement ? Ou est-ce que suffisant, finalement ?
Non, je pense que chacun a son médium. Moi, c'est la bande dessinée. Mais je n'ai jamais cherché à faire passer des messages spécifiques dans mes bandes dessinées. En fait, je m'en méfie. Généralement, si je me dis faut que je dise que la guerre, c'est mal, on le sait que la guerre, c'est mal. Donc, faire un album là-dessus, c'est complexe. J'aime bien plutôt prendre toujours des chemins de traverse et se moquer des gens qui pensent la même chose que moi.
Dans un monde un peu meilleur, quand même, je me souviens d'une case où ils sont bloqués sur le mur d'actualité concernant les conflits au Moyen-Orient. Et t'es sûr que ton application n'a pas buggé parce que ça fait un temps que ça dure.
Oui, mais dans un monde un peu meilleur, donc le dernier Lapino qui est sorti, donc je me moque du monde de l'information parce que je trouve que l'information spectacle, c'est quelque chose qui nuit beaucoup à notre état de santé mentale, morale. Ils font trop de choses, je veux dire, c'est pas. Et il n'y a personne qui gère ça, donc. Bon, là, je n'ai pas enfoncé les portes ouvertes.
Petite question en aparté, est-ce que tu as la télévision ?
J'ai la télévision, mais je ne regarde pas les informations à la télévision, c'est pas. Donc, c'est pas fait pour. Donc, je regarde les informations, je pioche sur Internet les choses qui m'intéressent, mais c'est...
Oui, aujourd'hui, on a du mal à rester imperméable, même sans télé. Oui.
Moi, en fait, voilà, un petit aparté aussi là-dessus. J'ai une grand-mère qui est venue me voir en dédicace. C'était à Osgore.
Est-ce que tu l'as déjà mise dans une de tes bandes dessinées ?
Non, non. Et elle me dit... donc, je vais être grave pendant un moment. Après, je te dirai des blagues. Et elle me dit... Donc, je dédicassais Coquelicot d'Irak avec ma femme. Donc, il parle de l'histoire de ma femme qui est née d'un père irakien, d'une mère française née en Irak. Elle a passé ses 14 premières années à Mossoul. Et elle parlait de ça. Et on parlait de l'actualité. Et elle me disait, ouais, moi, c'est incroyable. J'étais avec mon petit-fils au parc. Il était dans le bac à sable. Et il y a une petite fille, je voyais sa maman qui avait un voile. Et je dis à mon petit-fils, ah bah, jouez avec la petite fille, là, vous allez vous amuser, vous allez faire des châteaux ou je ne sais pas quoi. Et son petit-fils lui dit, non, je ne veux pas. Et la grand-mère dit, mais pourquoi tu ne veux pas ? Il dit, non, je ne joue pas avec ces gens-là. Et la grand-mère, elle travaille à la Croix-Rouge. Elle dit, attends, ma fille, donc la mère de cet enfant-là, je n'ai jamais élevé ma fille comme ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Donc, le soir, elle va voir sa fille et elle lui dit, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que mon petit-fils pense ça ? Je t'ai jamais élevé avec cette haine ou en tout cas ce mépris des étrangers. Et elle, sa fille, elle lui dit, ah oui, mais avec tout ce qu'on entend à la télévision. Et donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je me méfie beaucoup des informations et de la façon dont on prend les informations et de la surenchère d'informations. Et dans Un monde un peu meilleur, donc il y a cette espèce de surenchère-là. Et je m'en moque. Et je me moque aussi de gens qui arrivent et qui disent non à la surenchère à faux spectacle et qui lancent des boules puantes sur la faux spectacle. Ce que je serais capable de faire. Mais en même temps, je préfère m'en moquer. Donc voilà, j'essaye toujours d'avoir une espèce de distance et de...
Tu as déjà jeté des boules puantes, je suis sûr.
Oui, mais j'étais jeune. J'avais 45 ans. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Lapineau. Ben, ceux qui ne connaissent pas. Alors, donc, je dessine animalier et minimaliste parce que ben, je ne suis pas super fort en dessin, mais c'est un style qui a permis de faire des choses où je pouvais raconter des choses de la vie. Généralement, je fais confiance à mon inconscient pour raconter des choses qui sont un peu plus profondes que juste l'aventure du gentil contre le méchant et à la fin, le gentil gagne. Je sais que j'ai des failles intérieures et j'essaie de travailler là-dessus plutôt que de dire effectivement le message, c'est les gentils ils sont gentils, les méchants ils sont méchants et rien ne changera jamais. Et je continue toujours à improviser de page à page parce que j'aime bien découvrir ce qui va se passer au fil de la plume. Donc j'ai l'avantage de dessiner vite, ce qui veut dire que si je rate quelque chose, bah, au pire bah, j'ai perdu 3 heures, mais j'ai pas perdu une semaine ou 2 semaines.
Mais c'est presque en fait de l'écriture automatique. J'ai vu, je t'ai vu en vidéo sur où tu présentais tes carnets, en fait, les carnets blancs sur lesquels tu dessines directement. Donc là, ça te permet d'avoir un iPad pas très cher pour dessiner dans le train. Mais j'ai le sentiment que c'est une écriture automatique maintenant.
Non, c'est pas une écriture automatique. C'est mon style. En fait, j'ai détesté mon style de dessin pendant très longtemps. Il y a encore 4 ans, j'aimais pas ça. En fait, quand j'ai proposé ce type de bande dessinée en 93, j'ai été voir tous les éditeurs. C'était avec l'album Slalom. Aucun éditeur n'a voulu le publier. Tout le monde me disait c'est un dessin pour les enfants et c'est un propos pour les adultes. Ça marchera jamais, ça nous intéresse pas, on sait pas quoi en faire. Et
on sait bien que les éditeurs sont visionnaires.
Oui, oui. Il y a juste les Humano qui m'ont dit, oh, si tu veux, on le publie, mais c'est gratuit, on ne te paye pas. C'était très tentant, et donc je ne l'ai pas fait avec les Humano, je l'ai fait avec l'association, et j'ai gagné le prix coup de cœur à Angoulême avec ça. Et donc derrière, c'est Dargo qui est venu me voir en me disant, ah, ça nous intéresse finalement. Bon, bah, tant mieux. Hein. Mais donc voilà, donc c'est mon style de dessin. Donc j'essaie à chaque fois d'enrichir un petit peu. Là, on voit par rapport aux pages du début de Lapineau et les cœurs de Patagonie, les décors, j'essaie de faire, de m'appliquer. Mais je n'étais pas satisfait de ça. Et à force de voir des lecteurs en dédicace, de vous voir en dédicace, et vous me dites à chaque fois, j'adore le dessin, j'adore les histoires, donc ça me fait très plaisir, mais je le prenais comme ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, plutôt que d'être insatisfait, je me dis, j'ai un truc, j'ai un dessin qui est ce qu'il est, mais en tout cas, ça me permet de raconter ce que j'ai envie de raconter. Et ben, je dis, je suis satisfait de mon dessin, je suis contente de ça. J'essaye toujours de m'améliorer, de faire mieux. Mais généralement, je remarque chez les dessinateurs, on n'aime pas notre dessin. Les gens qui dessinent comme Sampé, simplement, aimeraient dessiner comme Moebius. Ceux qui dessinent comme Moebius aimeraient dessiner autrement. Enfin, on est toujours insatisfait.
Et on va se créer des névroses. Peut-être que Moebius aimerait dessiner comme Trondheim.
Oui, peut-être. En tout cas, il n'y avait pas de rivalité avec moi.
Des fois, tout dépend le... Tout dépend l'heure de la journée, peut-être.
Mais en tout cas, oui, il y a plein de dessinateurs qui mettent une semaine à faire une page et qui aimeraient dire j'arriverais à dessiner en une heure, ce serait super. Et qui voudraient faire pareil. Ils essayent et ils n'arrivent jamais. Et moi, si je voulais dessiner comme eux, je n'arriverais pas. Mais bon, maintenant, j'arrive à me satisfaire de ça et je vis mieux.
Et il y a des situations que tu as directement calquées de ce que tu venais de vivre ou de ce que, je sais pas, tes potes, est-ce qu'ils se retrouvent dans certaines situations ou un lendemain de soirée un peu...
Non, j'arrive à dissocier parce que comme je fais beaucoup d'autobiographies, les choses vraies, je les mets dans ces trucs-là. Et les choses inventées, ben c'est... Par exemple, Slalom, c'est un album qui se passe avec des copains au sport d'hiver. J'ai jamais été avec des copains au sport d'hiver. Mais pourtant, il y a plein de gens qui me disent « Ah, ça, c'est comme quand j'étais avec des copains au sport d'hiver. Bah, » J'imagine que oui, mais sans doute que j'arrive à bien me projeter sur ce que pourrait être l'être humain dans ces conditions-là. Et les personnages, il y a deux personnages principaux, généralement c'est Richard, celui qui a la peau jaune là, et des pointes sur les côtés, et Lapino. Et en fait, Richard, c'est un imbécile, c'est ma partie imbécile, et Lapino, c'est le côté moralisateur que je peux aussi avoir.
Et je me scinde. Tu parles de tes copains. Tu parlais tout à l'heure de t'ennuyer durant ton enfance et ce qui t'a amené donc à griffonner un petit peu sur du papier. Dessinateur, c'est quand même un métier sédentaire, solitaire. Mmh. Est-ce que ça, quand même, finalement, ça a fini par t'amener des copains ?
C'est pas ça. C'est que je... Comment dire ? J'ai fait un bouquin qui s'appelle « Désœuvré » et qui parle du fait que je me posais la question pourquoi est-ce qu'un auteur de bande dessinée, passé 60 ans environ, ne fait jamais de chef-d'œuvre. Alors que dans d'autres domaines, comme en littérature, au cinéma, en peinture, on peut avoir 60, 70 ans, 80 ans. et faire des trucs encore très très bien. Et quand je dis chef-d'œuvre, vraiment des trucs top. En bande dessinée, ça n'existe pas. Vous pouvez chercher, c'est pas possible. C'est comme dans le rock'n'roll. Crumb dit la bande dessinée, c'est un métier de jeune homme. Donc j'avais un petit peu cette angoisse-là en me disant comment faire pour pas devenir un vieux crouton. Comment ça se fait que les anciens ont plutôt mal fini, ils sont devenus généralement alcooliques ou dépressifs ou les deux. Et j'ai fait une recherche, donc j'ai fait ce livre désœuvré. Et en fait, c'est souvent parce que les générations précédentes étaient pressurisées, on les obligeait à faire le même personnage et d'album en album. Bah, ils s'épuisaient au niveau des idées, c'était des tics graphiques, des tics narratifs. Et effectivement, ça les rendait malheureux. Donc moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de faire des collaborations, de m'enrichir des qualités des autres. Donc faire des albums, avec surtout en tant que scénariste, avec des gens qui ne dessinent pas comme moi et qui ne font pas ce que je pourrais faire. Et ça donne des exemples comme avec Mathieu Bonhomme, on a fait Texas Cowboy, donc c'est un truc de western. Stéphane Wary, c'est un polar avec... Olivier Vatine et plein d'autres, on est à 7 co-scénaristes et 8 dessinateurs à faire Infinity 8, c'est de la SF. Pour moi, ça me redonne de l'énergie, ça me permet de voir comment les autres scénaristes travaillent, et c'est assez chouette. C'est vrai que quand j'ai fait l'album qui s'appelle Blackton, c'est un western, c'est le premier Lapino qui est sorti en 95, j'ai croisé en festival Jean Van Damme, donc le scénariste de Largo Winch et de Torgal. Et il vient me vers moi, il me dit « C'est toi, Lewis Trondheim ?» Ben, je lui dis « Oui, c'est moi. » Elle me dit « J'ai lu Blackton et je l'ai relu parce que je n'avais pas compris comment tu avais fait ta structure de scénario. » Je dis bah, « Très bien, ça me fait plaisir. Mais moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait la structure de scénario, j'ai improvisé. » Ben, »« Oui, mais moi, j'ai quand même relu, comme ça, je sais maintenant comment tu as fait. » Donc lui, c'est un mec qui travaille vraiment avec les ficelles. Ce qu'il fait, c'est intéressant, ce n'est pas mon truc à moi, mais il avait besoin de savoir comment je faisais de l'improvisation. Et là-dessus, je n'avais pas eu de réponse. Je le recroise 2 ans après, et il me dit « C'est toi, Trondheim ?» Je lui dis « Oui, j'ai lu Blackton. Je l'ai lu 2 fois pour comprendre la structure de scénario. » Je lui dis « C'est gentil, Jean, mais tu me l'as dit il y a déjà 2 ans. Ah, d'accord. » Et je le revois encore 2 ans après, et il me redit exactement la même chose. Voilà, c'était l'anecdote.
J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous dire que tu étais le prochain dessinateur de Largo Winch.
Non, je pense que je ne saurais pas faire. C'est pas...
Tout à l'heure, tu parlais de Crumb et du rock'n'roll, en fait. Tu es musicien ?
Non, je ne suis pas musicien, mais j'ai toujours voulu essayer de faire de la musique. J'ai toujours regretté de ne pas faire de la musique. Et un jour, j'ai vu Jackie Berroyer, c'était une interview, et il disait à 40 ans, je voulais apprendre un instrument, et je crois qu'il a fait du cor ou de la trompette. À ce moment-là, il a appris, et il était très content d'en faire. Et je me suis dit, mince, moi, en fait, quand j'étais gamin, je voulais faire de la guitare. Donc mes parents m'avaient acheté une petite guitare, et j'avais pas de prof, mais je savais même pas comment faire des accords. Et dès que la guitare s'est désaccordée, je ne savais même pas qu'on pouvait réaccorder une guitare. Je crois qu'il fallait racheter une guitare. Et j'ai mis la guitare dans un coin et je n'ai plus jamais joué. Ça m'avait un peu dégoûté. Et je me suis dit, à un moment, c'était dans les années 95, 2000, j'avais une Game Boy et je jouais à Tetris. Et au bout de 6 ans, 7 ans de Tetris, j'avais fait décoller plein de fusées, c'était bien. Mais bon, un peu fatigant à force, je tournais un peu en rond et j'ai calculé le temps que j'ai passé à jouer à Tetris. J'ai eu très peur, je me suis dit bon, si j'avais appris à jouer d'un instrument pendant la même période de temps, bah, je saurais jouer. Donc j'ai mis la Game Boy de côté et j'ai commencé à jouer un petit peu du ukulélé pendant 4 ans ou 5 ans et après j'ai acheté une guitare, j'ai acheté un accordeur et je joue de la guitare mais pour le plaisir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les adultes, ils se disent « un jour, je ferai ceci, un jour, je ferai cela, si j'avais le temps, je ferai ceci ». C'est à nous de prendre le truc en main, c'est nous qui décidons de notre avenir, il faut le faire. Si on dit « un jour, je bah », non, il faut le faire, il faut arrêter de se leurrer.
Et ton environnement de travail, en fait, c'est quoi alors du coup ? C'est en musique ?
Non, alors c'est le silence complet. C'est très traumatisant pour les copains qui viennent travailler à la maison de temps en temps, mais c'est le silence complet. C'est-à-dire que moi, je peux pas travailler. Comme j'improvise beaucoup, je peux pas travailler avec un fond musical parce que ça va m'influencer sur ce que je vais faire. Donc j'aime bien le silence.
Et tes journées de travail, raconte-nous un petit peu.
Levé 10h30. Un verre d'eau le matin, voilà, c'est mon petit déjeuner, c'est un verre d'eau. J'arrive, je fais mes mails et puis...
Tu as une discipline au niveau horaire ou
zéro discipline.
10h30, là, bon...
Zéro discipline. Ce que j'aime faire, c'est faire plein de choses à la fois.
Oui, tu parles de travailler sur 4 à 5 albums à la fois, donc là, j'imagine que c'est non, entre
en fait,
scénariste
c'est
et dessinateur.
En fait, je travaille sur une douzaine d'albums à la fois.
Que le matin?
Non. En fait, je suis vraiment au service des copains dessinateurs. Donc, quand il y a des urgences, ils me disent là, dans 2 jours, j'ai besoin de scénario. Bon, ben, je leur fais du scénario. Et puis voilà. Et parfois, je ne vais pas dessiner pendant une semaine ou 10 jours parce que je dois faire du scénario pour d'autres personnes.
Et quand tu travailles donc en scénariste sur une collaboration avec un dessinateur, des fois, tu n'as pas envie de t'impliquer dans le dessin?
Non, parce que quand je fais du scénario, en fait, je dessine, je fais des personnages patates et je fais une espèce de découpage, de pré-découpage assez rapide. Je peux pas écrire un scénario en tapant sur l'ordinateur. C'est pour moi, c'est pas vivant. Il y a des choses qui apparaissent quand je fais du case à case, il y a les ruptures qui se font justement. Avec la première question, tu parlais de la gouttière.
Revient au vide.
L'ellipse qu'il y a entre une case à l'autre. Je le ressens que si je le dessine. Donc ça, je peux écrire des scénarios que comme ça. Par contre, il y a des dessinateurs qui n'ont pas du tout envie d'avoir du scénario sous cette forme-là, comme Mathieu Bonhomme ou Stéphane Wary. Donc dans ce cas-là, je fais mon scénario comme ça, et après je le retape en disant case 1, ceci, case 2, cela. Et puis voilà, c'est un peu plus de travail, mais c'est pas grave.
Oui, l'ordinateur, tu restes traditionnel sur le dessin et presque écriture manuscrite finalement pour... Pour les scénarios.
Et quand on faisait Donjon avec Johan, donc on allait en vacances ensemble. Nous, on déteste les vacances avec Johan. Et comme nos femmes s'apprécient bien et que nos enfants s'appréciaient bien aussi, on allait en vacances ensemble pour travailler. Et donc, en 2 semaines de vacances, on écrivait généralement 2 ou 3 albums de Donjon. Mais en les dessinant, c'est-à-dire qu'on se mettait avec un paquet de feuilles l'un devant l'autre. On faisait 2 albums, on commence comment, on va faire tel album avec tel personnage. Donc j'ai une idée de scène de début, donc il commençait par exemple, moi en parallèle, j'ai une idée pour l'autre album pour commencer. Et puis, en fait on essayait de mettre le personnage dans des situations les plus impossibles possibles, dès qu'on avait mis ce personnage dans la situation impossible, on filait à l'autre en disant « Vas-y, débrouille-toi pour continuer. » C'est une espèce de tac au tac.
Et pendant ce temps, l'autre, il allait dans la piscine, c'est ça?
Pendant ce temps-là, l'autre, non, il finissait le sien. Et puis, il donnait. Donc, on avançait assez vite. Et il y a des albums où on croit que c'est du Johan parce que je fais des trucs un peu philo. Et en fait, je me mettais dans la peau de Johan. Et des trucs très scato, on croit que c'est moi, mais c'est Johan qui l'a écrit. Ah. Enfin, que Johan. Tout le truc scato, c'est Johan dans Donjon. Mais parfois, c'est des pages entières ou ça va être des séquences de 3, 4, 5, 6 pages qui sont que de l'un ou que de l'autre. Ou parfois, ça va être de case à case, on ne savait pas, donc on passe de l'un à l'autre, de case à case, et même de dialogue à dialogue dans une seule case. Mais c'était vraiment le plaisir de travailler comme ça. Et après, donc c'était avec des personnages patates aussi, et on filait au dessinateur le scénario prédécoupé, en leur disant « vous faites comme vous voulez derrière ».
On va faire une petite un appel à la salle, peut-être, s'il y a des questions en même temps.
Ah, ça veut dire que tu n'as plus de questions.
Si, mais l'heure passe. Moi, je resterai bien 2 heures de plus, mais je crois qu'on va se faire engueuler si la remise des prix est décalée à cause de nous.
Moi, je sais qui a gagné les prix. Je peux les donner tout de suite, comme ça évite la remise des prix.
Comme ça, on peut rester sur scène comme ça.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, moi, je voulais savoir. J'ai toujours trouvé, en lisant vos bandes dessinées, qu'il y avait un style graphique très particulier, des codes graphiques très particuliers, qui pouvaient éventuellement très bien se prêter à l'animation. Et quand on voit que certains de vos anciens collègues de l'association, Marjane Satrapi ou même Johan Svar, qui ont adapté leurs œuvres, en l'occurrence Persepolis et Le Chat du Rabbin, pour ne citer que ces œuvres-là, ont été adaptées en film, et qui ont été de très bonnes adaptations, enfin, à mon avis. Donc je me demandais, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous intéresserait d'adapter une de vos bandes dessinées, que ce soit Lapino ou Donjon ou même Ralph Azam, ou alors pas du tout, ça vous intéresse pas du tout?
Alors la réponse, c'est pas du tout, et je vais développer. J'ai eu des adaptations qui ont été faites à la télévision. Il y a eu La Mouche, il y a eu Caput et Zoski, il y a eu Allez Raconte, il y a eu OVNI. Et sur certaines de ces adaptations, j'ai été directeur d'écriture, donc j'ai demandé à des copains dessinateurs de BD de travailler sur les scénarios, parce que je ne voulais pas travailler avec des mercenaires qui officient toujours pour M6 et France 3. Je voulais travailler avec des copains. Et donc j'ai fait ce travail de direction d'écriture qui était intéressant. Mais j'ai vu tout de suite les limites de travailler à plusieurs, pas avec les copains, mais travailler avec des producteurs. Et le fait de travailler comme ça dans le domaine de l'audiovisuel me fait dire que je ne suis pas du tout fait pour les consensus. Et je n'ai pas du tout envie. Et d'autre part, je ne suis pas frustré par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, la bande dessinée, c'est le domaine créatif, narratif, où on est le plus libre. Et j'échangerai ça contre rien au monde. Donc je vois très bien les paillettes qu'il y a dans le monde du cinéma ou de la télévision. Ça peut plaire à certains et tant mieux pour eux. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon mode d'expression qui est la bande dessinée. Et voilà. J'ai un agent audiovisuel qui travaille pour moi, pour la pub ou pour des choses comme ça, quand il y a des adaptations pour la télé. Il m'a dit, si jamais t'as un scénario, donne-le moi. Moi, je vais trouver un producteur. Il se trouve qu'il y a 6 ans, j'ai commencé un scénario pour un auteur qui travaille pour Ubisoft et qui met très longtemps à faire le bouquin. Et ben, je lui ai dit, je vais finaliser ce scénario-là, qui peut être un bon film. Donc, j'ai fait ça. Je vais donner à mon agent. Mon agent a dit, ah, c'est super. Bah, je vais donner un producteur et puis on va voir pour que tu le réalises. Et je lui dis, ah non, moi c'était juste pour donner un scénario, je ne veux pas le réaliser. Et il m'a dit, oui, mais si tu ne le réalises pas, le réalisateur, lui, il va changer des choses, le producteur va changer des choses, donc il faut que tu sois à la barre. Ah, je lui dis, bah, dans ce cas-là, oublie le truc, moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas, envie. Je pense pas que... Je comprends très bien le fait qu'être vu par... 1 million de personnes au cinéma, ou 2 millions de personnes au cinéma, ou 10 millions de personnes à la télévision, ça fasse briller les yeux. Mais j'ai pas, pour moi, le bonheur, il n'est pas là. C'est-à-dire, je sais que c'est pas nécessaire. Donc, et je sais que ça peut être aussi une cause de souffrance si ça ne marche pas. Et en tout cas, de grosses pertes de temps. Et surtout, par rapport à ce qu'on peut avoir en tête et ce qui sera là au final, il faut vraiment faire un travail de deuil. Donc non.
Est-ce qu'il y a une autre question? Tu parles du bonheur, pour toi, il est sur le papier blanc.
Le bonheur, il n'est même pas sur le papier blanc. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure d'auteurs qui finissent par vieillir mal, donc je parlais d'une solution, c'était de faire beaucoup de collaborations, mais je sais qu'au final, ça ne marchera pas éternellement. Et en fait, pour ne pas être malheureux en vieillissant mal, la solution que j'ai trouvée, c'est à un moment arrêter. C'est-à-dire à un moment, ne plus faire de bande dessinée, ne plus faire le travail que j'aime faire, parce que je sais que ce ne sera pas très bien. Donc plutôt que d'être frustré de faire des choses moins bien, parce qu'on ne sait jamais quand on fait les choses moins bien. Il n'y a personne qui va nous le dire. En tout cas, nous, on n'est pas suffisamment bons juges pour le savoir. Donc plutôt que de faire un truc qui va devenir médiocre petit à petit, autant arrêter un moment et faire en sorte, entre maintenant et ce temps-là, faire en sorte que le centre de ma vie, qui est la bande dessinée, se décale petit à petit et que le centre de ma vie soit juste ma vie, c'est-à-dire faire plus de voyages, m'occuper de mon jardin, m'occuper juste de choses et d'autres, me promener, qui est très bien. Et ce n'est pas parce que j'aurais été auteur de bande dessinée pendant 40 ans qu'il faut que je fasse ça toute ma vie et qu'on peut très bien être heureux en faisant autre chose. Et surtout, on peut être heureux en faisant autre chose. Et c'est un travail sur soi qui est assez complexe de se dire, voilà, je suis connu pour être auteur de BD. Si je ne suis plus auteur de BD, est-ce que je suis encore quelqu'un ou pas?
Là, c'était la minute de philosophie, tu les as tués, là, je crois. Est-ce qu'on a une autre question?
On peut enchaîner là-dessus. Je me demandais à un moment, vous parliez sur le style, que vous aimeriez avoir un autre style. Du coup, premièrement, de qui vous aimeriez avoir le dessin. Et après, là-dessus, par exemple, moi, lire Torgal, rien que le dessin, ça me fatigue déjà. J'arrive pas à lire l'histoire, il y a trop de textes, trop de links. Après, je comprends qu'on aime ça, mais... Alors que votre dessin, ou par exemple, Marion Montaigne, qui fait pareil, des dessins, elle arrête pas de répéter qu'elle dessine très mal, mais elle sait que c'est pas vrai. C'est une des rares BD où j'ai vraiment rigolé à pleine voix, parce que c'est très expressif. Au contraire de plein de dessins très fins, genre Mobius, tout ça, c'est hyper précis, mais je trouve ça pas très expressif. C'est pas vraiment une question.
Oui, en fait, oui, on aimerait tous dessiner un petit peu différemment. C'est vrai que si j'avais pu dessiner comme Mobius, j'aurais aimé le faire, mais après, ça m'aurait restreint. Le fait de pas savoir bien dessiner, c'est aussi un avantage, parce que ça nous oblige à trouver par cette contrainte-là, à trouver d'autres solutions narratives et graphiques que tous les autres. Mon style est fait parce que je sais pas dessiner autrement, enfin que je savais pas bien faire. Je pense que c'est un handicap de savoir super bien dessiner. Des jeunes auteurs que je peux voir en salon qui m'amènent leur book, ou à l'école qui font le Saint-Luc, ou qui font Cole, ou qui font les Beaux-Arts d'Angoulême, ceux qui sont super forts, c'est généralement ceux qui vont jamais réussir en BD parce qu'ils sont trop forts. Soit ils vont être happés très vite par Disney ou DreamWorks, ils vont être malheureux là-bas, soit ils sont tellement forts en dessin qu'ils se disent le dessin c'est suffisant, j'ai pas besoin de faire de scénario. Et voilà. Et si jamais ils font du scénario, ils vont faire du scénario un petit peu classique, ballot, alors que on a lu tellement d'histoires, nous tous, qu'on aime bien les choses un petit peu différentes. Et avoir un ton, c'est déjà avoir un ton, c'est un ton d'auteur, quoi. On est quelqu'un parce qu'on sait raconter différemment. On peut raconter n'importe quoi. Ça peut être super, ça peut être l'histoire de quelqu'un qui va caresser un chien dans la rue, ça peut faire un album de 800 pages formidable, et quelqu'un qui a eu toute sa famille, qui est morte de la lèpre en Papouasie, ça peut faire un album très moche parce que ce sera mal raconté. C'est pas parce qu'on met ses tripes sur la table, c'est pas parce qu'on est sincère qu'on va être bon. Il faut avoir une tonalité, un point de vue. Et ça, c'est assez difficile à voir. Mais malgré tout, par rapport au style, regarde, là, il y a Mister O. Mister O, pour moi, c'est un style différent. En fait, je dois avoir peut-être deux ou trois ou quatre styles différents. Même si c'est minimaliste, c'est pas du Lapino, c'est autre chose. Et là, c'est des histoires où, à chaque fois, c'est un personnage qui doit passer par-dessus un précipice. Il doit y avoir 70 ou 80 cases par page. Ça me permet de faire des choses un peu différentes.
Ah, minimaliste, c'est parce que t'es trop modeste, je crois.
C'est quand même minimaliste, là. Mais oui, donc le style, ça peut être un piège, comme ça peut être une porte de secours formidable. Ça dépend comment on l'utilise.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question ?
Bonsoir. Alors, c'est à votre droite, c'est par ici que ça se passe.
Il est par là-bas.
Bonsoir. Je suis ravi de pouvoir vous poser la question en direct plutôt que par Facebook ou par Internet, etc. Peut-on espérer une suite à la série ou aux séries Donjons ? Où en êtes-vous par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes lassé de la série ? Est-ce que vous êtes... Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne voit plus trop de tomes ces derniers temps ? Ou alors je me trompe peut-être, mais... En fait, je m'interroge vraiment parce que c'est une série qui est tellement géniale que c'est hyper frustrant pour le lecteur que je suis de ne pas pouvoir en savoir plus de ce qui se passe par la suite. Merci.
Alors, Donjon, en fait, on a fait 34 albums en l'espace de, je ne sais plus, presque 10 ans. Après, il y a eu un blanc pendant 4 ans parce que Joanne faisait de l'audiovisuel, du cinoche. Et à un moment, j'ai réussi à l'attraper pendant 10 jours. Il est venu à la maison et on a fait les deux derniers albums, le tome 110 et 111. Parce que je lui dis, il faut terminer au moins la méta-histoire avec l'entité noire. Et donc ça, on a fait ça. Mais en fait, depuis, lui, quand il arrête de faire du cinéma, il fait ses BD à lui. Et je le comprends, il ne veut pas faire des BD collectives. Donc, c'est la balle est dans le camp de Johan là-dessus. En même temps, quand on commençait Donjon, c'était moi qui devais dessiner, on devait écrire ensemble. Et ça devait être tout, quoi. Il devait juste avoir une série et pas plusieurs. Et après, c'est Johan, au bout de deux albums, qui était frustré de ne pas dessiner et qui s'est dit « Ah ben moi, je voudrais aussi faire une série. » Et je lui ai dit « Bah non, regarde, là, tu fais le chat du rabbin, moi, je fais Lapino à côté, on fait Donjon, c'est suffisant. » Il m'a dit « Ah oui, t'as raison, Lewis, tu es pragmatique, c'est bien. » et trois jours après, il m'a envoyé les quatre premières pages d'un donjon qu'il voulait quand même faire, qui se passait dans le futur. Et je lui ai dit « Ouais, c'est super, c'est très bien, bah, on va le faire, t'as raison. » Et pour me moquer de lui, je dis, on va faire aussi une série qui se passe dans le passé, comme ça on verra le gardien quand il était jeune. Il me fait, ouais, super. Et puis, une série aussi qui se passe n'importe quand on veut. Ah ouais, super. Donc voilà, c'est à la base, Donjon, c'est pas ce que c'est devenu. Je suis ravi que ce soit devenu ça. Hein. Mais si on m'avait dit à la base, on va faire 36 albums en 14 ans, j'aurais dit, non, j'ai autre chose à faire. Mais je suis... En même temps, c'est peut-être bien que ça s'arrête, c'est peut-être bien qu'il y ait des trous, c'est peut-être bien qu'on n'aille pas plus. Je pense que si on avait continué sur le même rythme, de la même façon, on nous aurait engueulé en disant « Ah non, vous en faites trop, ça suffit. » Je crois que l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a.
Lewis a dit le mot qu'il fallait, il faut bien que ça s'arrête, malheureusement. On va mettre fin à cette petite heure de rencontre dans l'intimité de Lewis Trondheim. Je te remercie vraiment
d'avoir joué
le jeu à ce point-là.